Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le 6 novembre 1833, le petit monde des arts et des lettres parisiens se presse devant les portes du théâtre de la Porte Saint-Martin pour la première de Marie Tudor, la nouvelle pièce de Victor Hugo. À 31 ans, le futur auteur des Misérables s'est déjà imposé comme l'une des grandes figures du romantisme, mais aussi comme un homme qui a le don de mettre le feu à la scène et au rideau en cassant tous les codes du théâtre classique. Pièce après pièce, Hugo rend fou les critiques littéraires les plus conservateurs. On l'a surtout vu avec Hernani et sa fameuse bataille en 1830, l'un des plus beaux scandales du théâtre français. Pourtant, le public a peut-être autre chose en tête ce soir-là, quelque chose d'un peu plus croustillant que le respect de la fameuse règle des trois unités de temps, de lieu et d'action. Parmi les comédiennes qui s'apprêtent à entrer sur scène figure une jeune femme, Juliette Drouet, dont chacun sait qu'elle est la maîtresse de Victor Hugo depuis près d'un an désormais. Le rideau se lève et le public découvre une intrigue, un rien alambiqué qui brode autour des affaires de cœur de la véritable Marie Tudor, fille d'Henri VIII et reine d'Angleterre au milieu du XVIe siècle. Juliette Drouet ne joue pas le rôle titre, mais celui de Jane, une jeune orpheline déchirée entre l'amour que lui porte un brave ouvrier ciseleur et les belles paroles d'un aventurier sans scrupules, Fabiano, qui se trouve être, par ailleurs, l'amant de la reine. C'est l'un de ces grands drames romantico-historico-politiques comme la littérature française du XIXe siècle va s'en faire une spécialité. La bataille d'Hernani, 3 ans plus tôt, a montré à quel point le public parisien peut se montrer excessif, en bien comme en mal d'ailleurs. Et lors de la première de Marie Tudor, c'est Juliette Drouet qui en fait les frais. Alors qu'elle joue sur scène, les sifflets commencent, de plus en plus bruyants et de plus en plus cruels. Les protestations et les quolibets se concentrent sur elle. De toute évidence, son jeu ne plaît pas aux spectateurs. À chaque réplique, une nouvelle moquerie. À chaque entrée en scène, une nouvelle injure. La jeune femme a déjà connu sa part de critiques et de moqueries, mais là, c'en est trop. Juliette Drouet ne jouera jamais deux fois dans Marie Tudor. Le lendemain de la première, effondrée, assassinée dans les journaux par les critiques littéraires, Juliette se montre incapable de remonter sur scène. Elle est remplacée par Ida Ferrier, autre étoile montante de la scène parisienne et autre maîtresse d'un géant des lettres, Alexandre Dumas. De là à dire qu'il y avait peut-être dans la salle quelques partisans de Dumas bien décidés à siffler la nouvelle muse de Victor Hugo, il n'y a pas loin quand on connaît les coulisses des théâtres parisiens à cette époque. Oui, Hugo et Dumas étaient au bord de la brouille, mais ça n'a pas duré. C'est d'autant plus cruel que c'est par le théâtre que Juliette Drouet avait rencontré Victor Hugo quelques mois plus tôt, le 3 janvier 1833, lorsqu'elle avait lu devant lui quelques lignes de Lucrèce Borgia. Elle avait ce jour-là obtenu un tout petit rôle, 9 répliques à peine, mais elle avait surtout conquis le cœur de Hugo. À cette date, Juliette Drouet n'est pas vraiment une inconnue. C'est une habituée des planches parisiennes et même si on la cantonne au second rôle, sa beauté est très appréciée de ses messieurs en général et de ses amants en particulier, comme le journaliste Alphonse Karr ou le sculpteur James Pradier. Théophile Gautier l'a décrit ainsi dans un de ses articles. Ses épaules de marbre blanc, ses longs cheveux noirs, ses courbes suaves et cette carnation laiteuse des brunes ne sont pas tout. Juliette a dans les yeux une flamme et dans le sourire tant de promesses. Au moment où sa route croise celle de Victor Hugo, chacun sait que Mademoiselle Juliette est une femme entretenue, comme on dit. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est ce qu'elle a vécu depuis sa naissance en 1806. Orpheline à 2 ans, Juliette a été élevée par les sœurs du couvent de Saint-Mandé où elle a reçu une solide éducation. Mais Juliette n'était de toute évidence pas faite pour être nonne. À 20 ans, elle laisse le couvent derrière elle pour tenter de percer comme modèle d'abord, comme comédienne ensuite, sur les conseils de James Pradier, le père de sa fille Claire. Mais si elle a connu plusieurs amants, Juliette n'a encore jamais vécu ce qui lui tombe dessus en croisant Hugo, qui, quant à lui, fait chambre à part avec sa femme Adèle depuis qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami Sainte-Beuve. Entre la comédienne et l'écrivain, c'est un véritable coup de foudre. Le soir du 16 février 1833, 6 semaines après leur première rencontre, Juliette envoie un petit mot à Hugo, le premier d'une longue série de 22 000 lettres. « Viens me chercher ce soir chez Madame K. Je t'aimerai jusque-là pour prendre patience. À ce soir, oh ce soir, ce sera tout. Je me donnerai à toi tout entière. » La soirée fut si belle que Hugo en célébrera chaque année l'anniversaire jusqu'à sa mort. Mieux encore, il y fera 30 ans plus tard référence dans Les Misérables en faisant de cette date, le 17 février, la nuit de noces de Marius et Cosette. Cette nuit où Hugo fit d'ailleurs des merveilles à en croire les lettres plutôt crues de Juliette Drouet, une nuit qui signe le début d'une histoire d'amour qui va durer 50 ans. Elle est en revanche très loin d'ouvrir à Juliette les portes de la grande carrière qu'elle espérait au théâtre. Au contraire, après le four de Marie Tudor, toutes ses tentatives pour remonter sur les planches seront vouées à l'échec. Être la maîtresse de Victor Hugo vaut à Juliette Drouet bien des jalousies, à commencer par celle de Madame Hugo. 5 ans après le désastre de Marie Tudor, elle n'a pas digéré l'aventure de son mari. Alors qu'il met la dernière main à Ruy Blas, une rumeur se répand. Juliette Drouet va incarner la reine d'Espagne. Adèle Hugo se fait alors une joie d'écrire au directeur du théâtre de la Renaissance pour lui rappeler que le public n'a aucune estime pour le talent de sa rivale. Le succès de la pièce est en jeu et elle conclut « J'ai quelque espoir que vous trouverez moyen de donner le rôle à une autre personne. On ne fait pas mieux comme Vacherie. » Et ça marche. Le rôle de la reine passe sous le nez de Juliette Drouet. Jusqu'à cet épisode malheureux, Victor Hugo avait tout fait pour que la carrière de Juliette Drouet se poursuive. Mais cette fois-ci, c'en est véritablement terminé. Juliette ne remontera plus jamais sur scène. Son existence, elle la dédie tout entière à son amant. Si leurs scènes de ménage sont fréquentes et qu'Hugo ne se prive pas d'accumuler les aventures tout en étant très jaloux, Juliette Drouet reste d'une loyauté sans faille à l'égard de celui qui a dû prendre en charge les montagnes de dettes qu'elle avait accumulées avec ses anciens amants et dont le remboursement prendra des années. Privée de scène, amoureuse clandestine et recluse, il ne reste plus qu'à Juliette d'écrire les 2 lettres quotidiennes que réclame son génial amant, des lettres fort bien écrites par ailleurs. Romantique un jour, malicieuse ou érotique le lendemain, elle montre un tout autre Hugo. Son Victor, à elle, c'est son admirable Toto, son sublime Toto, ce bourreau de travail qu'elle soutient sans faiblir. Fidèle entre les fidèles, Juliette Drouet lui sauve la vie en le cachant en 1851, lorsque Victor Hugo fait partie des hommes à abattre après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Elle le suit en exil, en Belgique, en sauvant au passage le manuscrit des Misérables, puis à Jersey et à Guernesey. Elle lui sert de secrétaire, de lectrice, de correctrice, sans jamais obtenir quoi que ce soit d'autre que ce statut de maîtresse, même après la mort d'Adèle Hugo. Mais pour Juliette, qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Dans l'une de ses lettres, elle écrit « Si vous avez du génie, moi j'ai de l'amour, et pour seule ambition d'être aimé de vous. Nous faisons chacun de notre côté notre petit travail. Toi, tu composes un chef-d'œuvre, et moi je t'aime. »
Europe 1,
historiquement vôtre.